Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et évidemment à mes collègues qui ont organisé très activement, bien sûr, ce colloque. Alors, je voudrais commencer par dire, pour introduire ce propos qu'on se souvient bien sûr avec émotion de l'affaire dite du CNED, qui a éclaté en décembre 2013 suite à un corrigé donc du Centre national d'enseignement à distance daté du 30 juin 2013 et envoyé aux professeurs de 3e qui portait la mention « Le génocide des Hutus par les Tutsis du Rwanda ». Donc, était-ce une négligence? Était-ce le signe d'un manque cruel de formation? En tout cas, cela ne pouvait pas éviter de faire douloureusement écho en contexte de négationnisme, parfois, comme c'est le cas de notre pays, ce que soulignait d'ailleurs le courrier d'Ibuka France à Vincent Peillon, ministre de l'époque. Mais dans un souci, en fait, de dépassionner le débat aujourd'hui et pour faire écho à la réponse, notamment de Jean-Pierre Chrétien tout à l'heure, je voudrais chercher à éviter 3 écueils pour cette communication, en tout cas. Le premier serait de pointer les seules insuffisances des programmes, des manuels en particulier, et donc de courir le risque de leur surinterprétation. Donc j'essaierai de croiser aujourd'hui à la fois les instructions officielles, donc il y aura pas mal de textes sur diaporama pour éviter de dire à chaque fois les références précises, législatives, etc. Si ce n'est pas très lisible, je le tiens bien sûr à votre disposition. Donc croiser les instructions officielles, les manuels qui sont aujourd'hui en vigueur et qui parlent explicitement du génocide des Tutsis, et enfin les pratiques enseignantes auxquelles j'ai pu avoir modestement accès dans une enquête que j'ai commencé à mener dans l'académie de Dijon, puisque j'enseigne à l'université de Bourgogne. Donc ça, c'est le premier écueil et du coup la démarche qui va avec. Le deuxième serait de tomber dans un optimisme béat quant aux possibilités permises aujourd'hui pour cet enseignement dans les classes du secondaire française, puisqu'il est encore très réduit. J'y reviendrai. Troisième écueil, ce serait de simplement dérouler ici un long plaidoyer en faveur de l'amélioration de cet enseignement dans le futur, même s'il est clair que celle-ci devra avoir lieu. Je voudrais vraiment essayer de montrer aujourd'hui comment il peut avoir lieu aujourd'hui, donc dans certaines classes, en tout cas de l'Académie de Dijon. Alors, on va commencer par la place de cet enseignement dans les instructions officielles d'histoire. Je parlerai uniquement de ça, quasiment uniquement de ça aujourd'hui. Donc, notamment, vous le voyez, par rapport à des programmes antérieurs, des classes d'enseignement général, les programmes de terminale générale et de troisième en particulier. Alors, voilà les programmes antérieurs, vous les avez là. Alors, il y a une quasi-disparition dans les programmes des classes générales aujourd'hui pour 2 raisons qui sont ici exposées. D'abord, un allègement des programmes de 3e qui va rendre moins direct l'enseignement du génocide des Tutsis, mais qui introduit, et je souhaiterais tout de suite le dire pour éviter d'être dans la pure lamentation, qui introduit la possibilité d'en étudier l'histoire longue dans le cadre notamment, vous le voyez, du chapitre 2 des colonies aux États nouvellement indépendants, puisqu'à côté de l'Inde et de l'Algérie, les programmes de 3e permettent toujours donc d'étudier un pays d'Afrique subsaharienne. Rien n'interdit donc d'étudier le Rwanda. Pour les manuels 2014 de 3e qui relèvent de ce renouvellement des programmes, j'ai pu par exemple, alors il n'y avait pas le Rwanda, mais j'ai pu par exemple voir le cas du Sénégal dans le manuel Belin 2014, mais aussi celui du Kenya, de l'Angola, du Congo, donc pas forcément des colonies françaises. Donc les choses peuvent être ouvertes à ce niveau-là. Il y a aussi la refonte des programmes de terminale générale avec la disparition du chapitre « À la recherche d'un nouvel ordre mondial » depuis les années 70. Refonte dont voici quelques éléments qui me semblent aussi intéressants parce que dans cette refonte des programmes, il est question quand même d'objets d'enseignement qui concernent les liens entre histoire et mémoire, nous en parlions tout à l'heure, notamment par rapport à la guerre d'Algérie et la Seconde Guerre mondiale, Donc, quand même des thèmes qui ne passent pas sous silence, hein, la politique française. Par ailleurs, il y a une piste qui me semble très intéressante, même si elle est très marginale encore dans les pratiques, qui est celle de la réflexion proposée aux élèves de terminale des classes générales sur les médias et la façon dont on construit l'opinion publique. Donc le Rwanda pourrait être tout à fait ici, le génocide des Tutsis au Rwanda, un cas exceptionnel, voire emblématique de ces erreurs d'appréciation des médias, de représentation, etc. Dans la lignée des travaux, par exemple, de jeunes historiens comme François Robinet, qu'on entendra demain. Et puis, bien sûr, en géographie, même si, bien évidemment, il ne s'agit pas d'histoire, je reviendrai tout à l'heure sur la façon dont certains collègues d'histoire peuvent aborder le génocide des Tutsis en géographie dans le cadre de ce programme de terminale. Alors, le seul véritable programme aujourd'hui qui donne une place explicite au Rwanda est celui de terminal bac pro, donc en histoire avec le chapitre 4, le monde depuis le tournant des années 90. Je ne sais pas si vous le voyez, ça a l'air très petit. Le Rwanda est cité explicitement, c'est le seul programme aujourd'hui. Et puis en éducation civique, bien sûr, avec les thèmes proposés de l'ingérence humanitaire et de l'ONU, très souvent les manuels vont se faire l'écho du Rwanda dans ce cadre-là. Alors, j'en viens tout de suite, après ces introductions concernant les programmes, aux études des manuels d'histoire. Alors, je vais procéder en deux temps. D'abord, les études qui ont été réalisées sur les manuels précédents, de la période précédente, donc 95-2008, puis une étude que j'ai faite tout à l'heure pour essayer de voir un petit peu si les conclusions ont pu évoluer. Alors, je m'appuie sur deux sources importantes. Les premières sont les conclusions qui sont exposées donc, par Sophie Ferradjian et Barbara Lefebvre dans « Comprendre les génocides du XXe siècle » comparé enseigné. Marcel Kabanda a fait allusion à cet ouvrage tout à l'heure, qui est un ouvrage très précieux à mon sens, j'y reviendrai. Et puis le travail colossal qui a été réalisé par Jacques Schaff, qui a posé une question tout à l'heure, donc enseignant d'histoire, qui a été publié dans La Nuit rwandaise et qui porte sur les manuels scolaires français des classes générales de 1995 à 2008, soit une trentaine. Je ne vais pas forcément parler des interprétations des manuels dans les deux études, mais simplement m'en tenir aux principales conclusions, et j'espère que Jacques Schaff ne m'en voudra pas de les dévoiler ici, puisque les conclusions qu'il a pu mettre à jour corroborent celles de Sophie Ferradjian et puis aussi une étude que j'avais pu mener il y a quelques années sur les manuels de terminale uniquement de 2004 à 2008. Alors, peu importe la diapositive, si ce n'est pas très lisible, je vais simplement dérouler les principales conclusions. La première, c'est le problème dans ces manuels précédents, donc de 1995 à 2008, de la dénomination des faits, puisqu'une minorité de manuels à l'époque parle de génocide, les autres parlent d'affrontements, de guerre civile, de réfugiés rwandais. La définition elle-même donnée du terme génocide manque en outre de rigueur, puisqu'il est souvent synonyme de violence extrême, sans la notion d'intention ou de planification, à l'exception notable du manuel Hachette Éducation 2008, où la question est posée à partir d'un texte de Jean-Pierre Chrétien qui accentue le rôle de la propagande et les méthodes d'encadrement de la population. Et la question posée aux élèves est la suivante: pourquoi peut-on parler de génocide au Rwanda? Donc là, il y a quand même un travail sur la notion en tant que telle. Deuxième constat de ces manuels de 1995 à 2008, le problème de l'identification du groupe cible, puisqu'une minorité d'ouvrages indique alors que le groupe ciblé est celui des Tutsis. On a des expressions telles guerre civile, lutte interethnique, génocide, je cite hein, tout ça, génocide entre les Hutus et les Tutsis. Le manuel Belin 2003 étant quasiment le seul à proposer un traitement judicieux de simplement cette question de la dénomination des victimes. Alors plus largement, le génocide est essentiellement présenté dans le cadre des manuels de terminale en particulier, comme un facteur de déstabilisation régionale dans le cadre du chapitre sur la fragilité politique et socio-économique du continent africain. avec des omissions, bien évidemment, quant aux facteurs historiques au long cours qui ont conduit au génocide, l'idéologie racialiste du 19e, le rôle de la colonisation, les causes politiques des deux républiques que tu évoquais, et puis les massacres, bien sûr, antérieurs à 1994. Il y a quelques exceptions quand même qui font des incursions dans ce temps long, pourrait-on dire. Le manuel Magnard 98, déjà, donc 4 ans seulement après, ce qui veut dire que quelquefois il ne faut pas attendre non plus que cela décante, manuel 2008 et puis le manuel Bordas qui présente une chronologie des événements, même s'il est vrai qu'elle commence simplement, et c'est problématique bien sûr, avec la date de l'indépendance, donc elle ne rend pas compte de la colonisation, mais elle mentionne des persécutions et le massacre de 73 avec un extrait de texte documentaire qui remet en cause la notion d'ethnie. Alors, troisième, je reviens aux conclusions de ces études, troisième objet, les ambiguïtés quant à l'implication française. Alors, cela est très développé dans le travail de Jacques Schaff, qui est un travail militant, qui montre notamment que ce rôle est complètement occulté avant et pendant, à l'exception du manuel Magnard 2004. Et les auteurs donc de Comprendre et enseigner soulignent quant à elle que parfois, je cite, le sujet est étrangement centré sur la France et son rôle humanitaire, bien sûr, avec le problème de l'opération turquoise et de la façon dont on en parle, donc notamment le manuel Nathan 2003. Alors, avant-dernier constat, le problème des photographies et de leurs légendes, puisque les photographies les plus souvent choisies, ça ne vous étonnera pas, sont celles de l'exil vers les camps du Zaïr de l'époque, avec un flou total sur les populations concernées, qu'on appelle en général dans les manuels réfugiés rwandais. Nathan Rera reviendra très certainement demain sur la problématique de ces photographies, leur accessibilité qui fait qu'on les a beaucoup utilisées et puis surtout les erreurs d'interprétation dont elles ont fait l'objet en inversant victime et coupable de façon très réductrice. On peut également souligner la présence de témoignages dans ces manuels d'histoire, issus pour la plupart de la trilogie de Jean Hatzfeld, notamment dans les manuels de 2008, mais des témoignages qui sont donnés de façon assez brute et très peu contextualisée. Dernier constat, les omissions de l'échec de l'ONU et de la communauté internationale. Alors, par rapport à ces différents points, je voulais regarder ce qu'il en était dans les manuels actuellement en vigueur dans les classes. Donc, j'ai regardé 32 ouvrages exactement qui recoupent les manuels et surtout leur appareil didactique, les cahiers qui sont notamment disponibles pour les élèves, cahiers méthodologiques pour s'entraîner, etc. Puisque c'est surtout là quand même, il faut le dire, qu'on parle du Rwanda, l'objet manuel, vu le peu de place dans les programmes, lui réservant peu de place. Alors, il s'agit donc, ce sur quoi j'ai travaillé, ce sont les manuels de 3e de 2012, même s'il y a eu allègement du programme parce qu'il continue à circuler massivement, puisque le parc n'a pas été complètement renouvelé en 2014. Bien sûr, le travail sur les manuels de 3e 2014 qui ont pu sortir là cette année, et puis les manuels de terminal bac pro, puisque c'est le seul programme donc en vigueur, de 2011 et leur réédition parfois à la marge jusqu'à aujourd'hui. Alors, on peut noter qu'il y a eu... Il y a eu des avancées, notamment dans la dénomination des faits, mais avec des nuances. Alors, l'appellation génocide est majoritaire. Pourtant, des confusions demeurent. Par exemple, Terminal Bac Pro Nathan Technique 2012, on parle de tensions interethniques qui dégénèrent en véritable génocide. Dans le manuel 3e livre scolaire 2013, on parle, je cite, des guerres civiles comme en Côte d'Ivoire, Algérie, Soudan, tournant parfois au génocide comme au Rwanda, avec ces dégénérés en, tournés en, où est l'idée de planification qui est quand même au cœur de la notion, et donc bien sûr avec encore une fois parfois la mention de ces tensions inter-ethniques. Alors, quand l'idée de planification est mise en évidence, comme par exemple dans le manuel 3e Bordas 2012, par un texte de Christophe Ruffin, paru dans l'Histoire, daté de 98 et titré « Pourquoi parle-t-on de génocide au Rwanda ?», l'allusion à des ethnies demeure dans ce même manuel, donc ça reste problématique. Il y a quand même un cas exemplaire, je tiens à le souligner, c'est celui du manuel de Terminal Bac Pro Belin 2011, qui présente donc ce texte, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais en tout cas lire le début pour que vous voyez le contexte, ce texte de l'Association internationale des droits de l'homme qui propose de rétablir les faits dans leur dénomination appropriée. Alors je vais citer le début. Contrairement à une certaine vision journalistique du génocide, présentée comme résultant d'un défoulement tribal atavique, ce génocide est le résultat d'une politique délibérée, d'une élite décidée à garder le pouvoir et se sentant menacée par les avancées du Front patriotique rwandais, FPR, sur son territoire. Donc ici, il y a quand même ce cas-là d'un travail sur le nom, la nomination, les représentations et les contre-représentations qui est proposé aux élèves. Alors il y a aussi une avancée que l'on peut noter concernant bien sûr la mention du groupe qui est ciblé par le génocide, puisque les Tutsis sont majoritairement évoqués hein, dans les manuels 3e 2012, 2014 et Terminal Bac Pro. Sinon, c'est bien regrettable, mais ça va en dire long plutôt sur la didactique de l'histoire. Sinon, ce n'est pas du tout précisé, au sens où on a des frises très larges. Vous voyez peut-être ou peut-être pas 1994, génocide au Rwanda, puisqu'il est question de retenir l'essentiel d'une période assez longue. Ou bien alors de simples exercices de datation, vous reconnaîtrez la forme de l'exercice si vous n'arrivez pas à bien lire, mais qui consiste simplement à donc associer des événements et leur date historique. Donc ce qui semble davantage poser la question d'une histoire du temps court et de la sacralisation de la date dans certaines démarches pédagogiques encore aujourd'hui. Alors, je reviens après. Donc, s'il y a eu des avancées hein, générales quant à la dénomination des faits, on sait qu'il s'agit d'un génocide, on sait qu'il a été perpétré contre les Tutsis. Le traitement reste problématique sur la question de la genèse de ce génocide et des facteurs de l'événement. C'est très peu explicité, vous l'avez compris, notamment dans les manuels où il y a cette pédagogie par la frise et la carte simplement. Donc, un manuel fait le choix caricatural de l'avion, de l'attentat contre l'avion, comme seul facteur déclencheur du génocide. C'est le manuel Hachette Éducation 2012, troisième. Pour contrebalancer, un seul autre manuel fait le choix d'une chronologie des événements Terminal Bac Pro Belin 2011, étendu depuis la colonisation 1916 jusqu'à la création du TPIR, en pointant par exemple en 1931, je cite dans la chronologie, mention Hutu ou Tutsi sur la carte d'identité des Rwandais, entre parenthèses, qui ont pourtant tous les mêmes langues, cultures et religions, fin de la parenthèse. Donc voilà, ce sont des cas très marginaux, soit le seul attentat, soit la chronologie au temps vraiment long. Il y a quelques cas de manuels qui évoquent le rôle des médias de la haine et de la RTLM en particulier. Par exemple, le manuel de 3e Manière 2012, qui rend compte d'un extrait de Yolande Mukagazana, malheureusement appelé ici Mukagazani, vous le voyez peut-être, qui rend compte en tout cas de ce rôle-là de la RTLM. Autre cas quand même plus intéressant à mon sens, notamment par rapport à l'appareil didactique, celui de ce terminal, de ce manuel de terminal professionnel qui finalement donne le document, hein, les dix commandements du Hutu paru dans Kangoura et interroge les élèves par rapport à ce document sur les intentions de l'auteur, sur sa mise en perspective historique. Oula, je vais très vite. Donc, Bon, je vais passer assez vite sur l'éducation civique. Bon, quand même, rappeler que les mêmes ambiguïtés demeurent quant aux photographies dans les manuels que j'ai étudiés. Peut-être, alors, quand même, celle-ci serait intéressante à regarder. La légende, je vous la lis. Fuite de citoyens rwandais vers la République démocratique du Congo en juillet 1994. Donc, citoyens rwandais, on retrouve le flou. Mais après, d'avril à juillet 1994, environ 1 million de Tutsis ont été exterminés, etc., etc. Ici, on rétablit les faits dans le cadre de la légende, mais bien sûr, la juxtaposition entre les deux conduit à penser qu'il s'agit de Tutsis essentiellement qui sont partis. Donc, on retrouve le même problème. Alors, les ambiguïtés quant à l'implication française demeurent, puisqu'elle n'est absolument pas traitée non plus. Alors, par rapport... Je passe un peu vite. Je passe aussi sur l'éducation civique, simplement pour dire que la principale conclusion... C'est qu'évidemment, il y a une amélioration là par rapport au manuel antérieur, puisqu'il y a eu changement de programme et donc l'ONU peut, et l'ingérence humanitaire peuvent permettre d'aborder cela. Je vais passer là-dessus parce que honnêtement, les manuels qui font le choix en éducation civique du Rwanda ne sont pas minoritaires. Il y en a quand même beaucoup qui font ce choix-là, mais ça en reste quand même au stade de l'anecdote et du pur souligner l'échec, mais sans expliquer ses causes, hein, en gros. Alors, pour essayer de contrebalancer, et je vais juste lancer quelques points puisque c'est quasiment terminé mon temps de parole. Pour essayer de contrebalancer le traitement des manuels, j'ai tenté de mettre en place donc une enquête pour cerner les représentations des professeurs quant au génocide des Tutsis. Déjà, il faut savoir, et c'est un des premiers enseignements peut-être, que uniquement l'inspection d'histoire m'a répondu, alors que ce manuel visait, ce questionnaire viser les enseignants de lettres, de philosophie, d'art, ce qui est peut-être une façon de penser hein, l'épistémologie de nos disciplines et se dire que peut-être on se confisque, on s'auto-censure quant à la légitimité de pouvoir parler de ces sujets quand on n'est pas historien. En tout cas, malgré tout, malgré une diffusion massive auprès des professeurs d'histoire, j'ai quand même reçu quatre questionnaires d'enseignants de lettres qui travaillent notamment en troisième sur La mémoire trouée d'Elisabeth Combre ou en terminale sur Mourambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop pour l'une d'entre elles et pour l'autre L'aîné des orphelins de Tierno Monenembo. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Il y a quand même un enseignement majeur, même si cette enquête elle en demeure assez balbutiement. J'ai simplement reçu une trentaine de questionnaires, donc elle n'est absolument pas représentative, mais c'est un premier pas qui est lancé. Il y a quand même un enseignement, c'est que les professeurs s'emparent véritablement de ce sujet, même si, vous le voyez, les injonctions ministérielles sont très minoritaires, ne concernent que le manuel de terminal bac pro. Alors, notamment, dans les classes qui abordent de plein front hein, la notion de génocide, les classes de première générale et technologique et les classes de CAP, les enseignants m'ont dit, même s'il n'y a pas forcément le Rwanda au programme dans ces classes, donc c'est essentiellement l'Arménie et la Shoah dans ces classes-là, les enseignants abordent le génocide des Tutsis. Je voudrais signaler l'importance considérable du programme d'histoire des arts, qui est quand même ce sur quoi le ministère a le plus insisté récemment, l'introduction de cette dimension-là, qui est transdisciplinaire, qui est censée concerner donc chaque discipline du secondaire, et qui se prête très favorablement hein, à l'enseignement du génocide des Tutsis, et qui revenait dans une dizaine de questionnaires que j'ai reçus, donc sur 30, c'est pas rien, notamment dans les classes de troisième, avec l'œuvre d'art et la mémoire au programme, ou alors, pourquoi pas un jour sur tes travaux en terminale, hein, l'art et la commémoration, et plus exactement aussi en terminale, l'art et la violence, la représentation de l'horreur. Donc, le principe de liberté pédagogique fait que les enseignants, de fait, trouvent des brèches dans ce qui est permis par le programme. Dernier constat pour l'instant, au stade où j'en suis de l'enquête, ces fameuses suggestions bibliographiques, parce que je voudrais insister surtout sur les premières, le travail considérable qui a été accompli par les collègues de l'INRP, l'Institut national de recherche pédagogique, quand il existait encore, puisque, en fait, dans ces questionnaires, la réticence majeure, pour le résumer, des professeurs ne sont pas les programmes, ce n'est pas la réticence majeure, ce n'est pas le traitement du manuel, etc. C'est plutôt des obstacles pédagogiques qui sont finalement les mêmes que pour d'autres génocides, à savoir l'aspect spectaculaire de la violence et comment gérer les émotions en cours d'histoire. Ça revient systématiquement dans les réponses que j'ai eues. Donc, je passe très vite parce qu'un certain nombre de collègues, dont vous avez les références là, hein, ont travaillé sur ces obstacles pédagogiques, ont fourni des pistes. Et encore une fois, je tiens à souligner le travail de Barbara Lefebvre et Sophie Ferradjian, par exemple, dans ce cadre. J'ai terminé. Je voudrais juste dire qu'il reste trois chantiers importants, à mon avis. D'abord, le fait que ces premiers résultats, ils doivent avoir lieu au niveau national et qu'il faut pour cela une équipe pour le faire, avoir accès aux pratiques enseignantes. Donc, je vous appelle à me contacter ou voilà. Deuxième chose, c'est que ce travail doit aussi avoir lieu auprès des enseignants du supérieur parce qu'ils sont beaucoup plus libres dans le choix de leur programme et de leur support et qui peut être, à mon avis, très intéressant de comparer le choix de ces supports et les spécificités de l'enseignement dans le supérieur par rapport au secondaire. Et dernier point, bien sûr, un comparatif à l'international une fois que ce travail aura pu être mené avec rigueur, avec sérieux de notre part. Voilà, je vous remercie.